Et bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, ça y est, c'est les vacances d'été pour les enfants, en tout cas, qui sont scolarisés. Rappelez-vous, c'était quand même une super période. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans ce podcast. On va aller puiser dans votre mémoire pour aller retrouver ces sensations de départ pour les grandes vacances. Ça y est, tu sais si t'as redoublé ou si t'as pas redoublé. Tu te dis que l'année prochaine, c'est loin, puisque quand t'es gosse, 2 mois, c'est énorme. Et tu te dis, voilà, j'ai tout l'été pour me régaler, j'ai tout l'été pour faire n'importe quoi avant d'arriver à la rentrée. Et même, il faut le dire, la rentrée, ben, en fait, c'était agréable, en tout cas dans le sud-ouest, parce qu'il faisait encore très chaud. Et en fait, tu découvrais des nouveaux camarades de classe. Donc même à la rentrée, finalement, que tu redoutais, tu étais quand même content parce que tu avais des nouveaux habits. Oh, maman t'a acheté des nouveaux habits, elle t'a acheté des chaussures qui courent vite. Donc, si vous voulez, il y avait quand même ce côté où on partait pour 2 mois d'été à geeker, à faire du sport, à se régaler. Et puis, au bout, il y avait la nouvelle classe, il y avait la promesse de la rentrée. Voilà, en général, mi-septembre, tu commençais déjà à phaser. Et la dernière semaine de... mi-septembre, mi-août. Et la dernière semaine d'août, ça y est, tu savais que tu allais doucement vers... que tu allais doucement vers la rentrée. Mais évidemment... On ne va pas parler de la rentrée parce que ça casse le moral. On va parler du départ en vacances, cette période géniale où les gosses font des goûters à l'école dans chaque putain de classe. Donc, il y a du cake au chocolat en cours d'espagnol et puis après, il y a des crêpes en cours d'anglais, je sais pas quoi, ou des scones, je sais pas quoi, tu te gaves comme un ananas. Bon. Alors moi, déjà, il faut savoir un truc, c'est que en fait, l'arrivée de l'été était souvent concordante à la finale, de rugby, puisque dans le sud-ouest, ce n'était pas le foot, la grande réunion. Alors évidemment, quand il y avait la Coupe du Monde, on regardait le foot. Hein, moi, devant France 98, j'étais devant le téléviseur avec mon père. On regardait les matchs parce que bon, les Coupes du Monde, c'est quand même un événement. Mais en général, il faut savoir que en Occitanie. L'événement qui marque le début de l'été, le début du départ en vacances, c'est la finale du ce qui s'appelle aujourd'hui le top 14, donc la finale du championnat de France de rugby où évidemment le rouleau compresseur du Stade Toulousain écrase tout le monde. Alors moi, dans les années 90, ben, vous connaissez ces sensations, c'est l'été, ça commence à sentir le barbecue dans les rues, tu te balades, tu sens la viande grillée. Alors je sais pas si ce sera pareil exactement partout en France, parce que bon, quand même, normalement, En été, en France, c'est les mêmes sensations à peu près partout. Je sais qu'il y a des régions de France qui sont plus pluvieuses et tout, donc on n'a peut-être pas ces mêmes sensations-là. Mais c'est vrai que dans le sud, dès la début mai à l'époque, hein, début mai, juin, et plus particulièrement en juin, quand tu arrivais au milieu du mois de juin, que tu savais que c'était les derniers petits jours d'école, ça sentait la grillade. Il y avait des goûters qui étaient organisés en classe, donc tu ramenais des gâteaux. Le but, c'était vraiment de s'exploser le buffet avant de partir en vacances. Et je vous avais décrit dans un podcast il y a quelques saisons de ça les départs en vacances depuis le collège. On se bousculait dans les couloirs, on poussait des cris d'excitation. On courait vers la sortie, on se poussait contre les murs, on se faisait des croche-pattes. Enfin, c'était le dernier jour d'école. Donc, t'as le droit de faire des bêtises. Alors, on cassait rien du tout, hein. On n'était pas comme ça. Mais on se mettait des croche-pattes, on se mettait des patates, hein. On faisait un petit peu plus de grabuge que d'habitude, voilà. Qu'avant de partir en week-end, par exemple. Donc, voilà, les grosses vacances, ouais, on peut le dire. Donc, moi, elles étaient marquées dans le sud-ouest par le repas de la fête du rugby. Donc, t'as les anciens qui jouent contre les jeunes, et après, il y a des grillades d'énormes porcs, et tout le monde finit à 400 grammes, et il y a Kiki qui s'éclate en mobilette. Bon, tout ça au clubhouse de la Salvetta Saint-Gilles ou du BSLR à Blagnac, et d'autres clubs que j'oublie, mais c'est partout pareil en France, quoi. Hein, avant de partir en vacances, t'as la fête du rugby. Ensuite, t'as la fête de l'école. Donc, la fête de l'école, c'est pareil. Sandwich de pâté, la kermesse, hein, donc le spectacle malaisant avec les gamines qui font un karaoké des Spice Girls dans les années 90. Putain. Après, t'avais la finale du Stade Toulousain, donc t'avais le daron qui organisait un repas, t'as les voisins qui venaient, t'avais les insectes qui tournaient autour des ampoules, on foutait de la citronnelle à l'époque. C'était pas les mêmes normes, donc tu te foutais un petit coup de gaz moutarde dans le nez pendant toute la nuit avec le café, le café après bouffée ou la tisane pour les gonzesses. Hein. Non, mais c'était une époque glorieuse, c'était magnifique. T'avais que 6 chaînes, donc tu te regardais le match et puis après t'avais un film, là t'avais le film de l'été, puis t'avais Interville. On passait nos grandes vacances à regarder Interville, mais les journées étaient géniales. On n'était pas des fils de pute, en fait, qui restent devant Instagram de merde pendant tout l'été, en fait. Il faut dire les choses. Moi, je me rappelle, il y avait une saine alternance de plein de trucs qui étaient géniaux. Moi, je me réveillais le matin, je prenais le vélo, j'allais voir les copains. Tu faisais des tremplins de gogol. Voilà, parce que comme t'es un garçon, t'es plein de testo. Donc, tu fais des tremplins. Tu vois, tu fais des tremplins. Alors, au début, c'est un petit tremplin. Hop, hop, je me suis réceptionné, c'est rigolo. Après, tu commences à faire des trucs de mongol. Après, le tremplin, au lieu d'être à une hauteur de, au lieu de faire un mètre de long et d'être à une hauteur de 50 cm, tu commences à faire des tremplins qui font 2 mètres de long et puis 1 m50 de haut. Et puis, à la fin, t'as un collègue qui saute du haut d'un pont avec son vélo. Voilà. Donc il éclate la fourche et il s'explose une couille contre le cadran du vélo. Et après ça tourne au drame, il faut le ramener chez ses parents qui prennent la R5 pour l'amener à Toulouse Purpan, tu vois. Donc c'était ça quoi, c'était ça nos étés. L'après-midi, eh ben, en fait tu rentrais, tu mangeais, alors on mangeait dehors parce que il faisait encore pas trop trop chaud là en juin, après c'était plus possible en juillet, fin juillet, août, tu pouvais plus bouffer dehors à midi quoi, c'était vraiment trop chaud. Mais on mangeait la salade, évidemment, la petite salade de tomates, les grillades. Putain, tu te pétais le bide, tu ramassais la table parce que, bon, voilà, t'étais un enfant digne quand même, bien éduqué. Et puis, t'allais te poser, alors, soit devant la Super Nintendo pour ceux qui l'avaient, soit la Game Boy, soit le petit PC assez tard. Hein. Moi, j'ai eu un PC très, très tard. Ma mère était secrétaire, donc on a eu un ordinateur assez tôt à la maison. Mais c'est Internet que j'ai eu assez tard. C'est Internet, voilà. Donc voilà, donc moi à l'époque, bah, tu mettais Age of Empires, voilà, Age of Empires, et tu bâtissais des empires, tu faisais des casernes, des tours, des gros murs, des catapultes, et t'éclatais les ennemis, voilà, t'éclatais les ennemis, parce que c'est ce que font les hommes, ils éclatent les ennemis. Donc tu venais de t'enquiller 3000 calories, là, sur la terrasse avec maman, et puis boum, t'allais t'enfermer dans la chambre de, ou la salle de l'ordinateur, ou devant la console. Moi j'avais un copain qui avait la Super Nintendo. Donc les après-midi, on jouait à Batman, et après tu reprenais le vélo quand la température descendait un petit peu. On allait faire des cabanes, on allait se baigner, parce que la piscine, à l'époque, la piscine municipale coûtait 3 fois rien. Donc t'allais te baigner, après tu sortais, t'allais prendre un petit goûter à la guérite Miko. Je sais pas si vous vous rappelez les petites guérites. Les petites guérites. Alors maintenant, il y a tellement d'administratifs que t'en as de moins en moins. Mais à l'époque, t'avais des vendeurs ambulants qui vendaient des glaces à l'eau, tout ça. Putain, mais c'était le rêve. C'était d'une simplicité absolue. Et avec 20 francs, tu te passais une journée d'enculé. Tu pouvais, enfin, j'exagère peut-être, mais ouais, avec 3 fois rien, tu te chopais une glace, t'allais à la piscine et puis tu pouvais mettre un coup de, tu pouvais mettre 5 francs dans un billard, une borne d'arcade, hein, et tu pouvais jouer un petit peu, tu pouvais t'amuser. Enfin, vraiment, c'était d'une extrême simplicité et ça manque beaucoup parce que il y avait de la diversité. Et vous voyez, il y avait déjà de la geekerie, il y avait déjà un petit peu de console. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que en fait, c'était assez sympa parce que bah, déjà, les jeux étaient assez qualitatifs. Bon, c'était pas non plus des trucs éducatifs, je vais pas vous faire le coup de oui, à mon époque, les jeux, quand tu jouais à Killer Instinct et que tu prenais Thunderman et que tu lui faisais mettre des patates à l'homme jaguar, si tu veux, bon, c'était un peu, voilà, c'était un peu gogol, quoi, tu vois. Mais les jeux étaient sympas. Moi, je jouais à Batman chez mon pote là qui avait la Super Nintendo, je jouais à Batman, Street Fighter, Killer Instinct. Oui, ça c'était génial aussi. T'es avec la daronne au magasin. parce que les daronnes, elles voulaient acheter des jeux vidéo, mais il y a la télé de gauche qui leur disait que les jeux vidéo, ça rendait les enfants violents. Donc elles demandaient, oui, est-ce que vous avez des jeux éducatifs? Et t'étais là, tu faisais putain de merde. Et tu repartais avec des jeux de merde que personne voulait et qui évidemment étaient moins chers. Donc là, la daronne, elle achetait. Alors qu'évidemment, pour vendre Killer Instinct à ta daronne, déjà Killer Instinct, le titre, c'était compliqué, quoi. Oui maman, alors écoute, pour progresser scolairement parlant, je voudrais acquérir le jeu nommé Killer Instinct. Et après, ta mère est rentrée dans ta chambre l'après-midi, quand, et elle entendait. Mais ce qui empêchait nos cerveaux de devenir de la bouillie, c'est qu'à un moment, t'éteignais la console parce que t'avais mal à la tête d'entendre des bruitages d'imbéciles. Moi, je me rappelle, il y a une époque, je jouais à Mace sur 64. J'avais mon pote Benoît qui m'avait prêté sa 64. Quoi. Mais putain, j'étais refait. J'avais joué à Mace. Mace est un jeu de combat médiéval. Tu te bats, il y a un fond de métal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du métal en permanence. Tu mets des combos, tu prends des vikings qui tapent sur des squelettes. C'est n'importe quoi. Tu peux jouer avec un bourreau qui a une hache de débile mental. Mais c'était des jeux, mais autistiquement parlant, on était au paroxysme de la maladie, en fait. C'était infernal. Tu passais des après-midi, mais je sais pas. Il y avait un truc très primaire, en fait. C'est-à-dire que tu coffrais des grillades. Tu coffrais des grillades. Tu mangeais un dessert de fils de pute parce que t'étais un sale gros. T'allais te poser dans ta piole ou t'allais voir un copain qui avait la console. Et putain, il est. Et tu faisais deux heures comme ça et quand t'avais mal à la tête. Quand t'avais mal à la tête, c'était le moment de sortir, quoi. Donc là, on prenait les vélos, on faisait des pointes, les tremplins, on roulait à fond dans la forêt, tu te prenais un arbre, tu te gamellais, tu t'explosais. Mais à l'époque, on était en caoutchouc. Donc tu tombais de ton vélo, tu prenais un arbre dans la gueule, t'avais pas vu une branche, ça te fouettait la tronche, mais je sais pas comment on a fait pour vivre. Je sais pas comment on a fait pour survivre, en fait. Je sais pas comment on a trouvé le moyen de pas finir handicapé physique, tétraplégique au dernier degré à 10 ans. C'était sans arrêt la Mongolie et la testo. C'était essayer de faire des catapultes, se balancer des pierres sur la gueule. Mais c'était infernal, en fait. On n'arrêtait pas. Et je trouve que les gosses aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins aventureux. Quand ils font des bêtises, c'est beaucoup de destruction, ça et tout. Mais il y a moins le côté, mon corps est en caoutchouc et je vais faire tout n'importe quoi. Moi, je me rappelle, on se bricolait des cartes, on récupérait des palettes, on montait dessus des roues qui valaient que dalle. T'allais à Bricorama, t'achetais des roues là, des roues de caddie quoi. Tu mettais deux coups de vis. En plus, on se débrouillait mieux en bricolage, j'ai l'impression. Moi, étant gosse, je me rappelle, alors c'était abominable, hein, c'était très très mal fait, mais je me rappelle, étant gosse, quand même, aller dans le garage de mon père, choper la perceuse et faire des trucs. Et putain, on se faisait des cartes, on pimpait les cartes, on faisait des descentes, mais je sais pas comment on a fait pour pas prendre une Renault Laguna dans la FIF, en fait. Mais je ne sais pas comment on a fait pour pas mourir sous les roues d'une énorme bagnole. On descendait, moi, mon quartier, il était en pente. On faisait des courses de karting qu'on s'était fait en bois et qu'on avait pimpé. Mais je sais pas comment on faisait pour pas s'exploser la fif contre des pare-chocs, en fait. T'avais les voisins qui arrivaient, mais bon, les voisins le savaient. On jouait au rugby. Moi, je me rappelle que quand j'étais gosse, on allait au lac de Plaisance-du-Touche avec les copains. On posait les vélos et on se faisait des passes, on faisait des touchés. On n'arrêtait pas. Et tu rentrais le soir chez toi, tu redéglinguais un putain de repas d'été trop bien. Et après, t'allais te faire un Interville. Non, mais parce qu'il faut comprendre, Interville, c'est le sommet de la testo. Parce que vous avez grandi avec ça. Vous, ça vous semble être un truc un peu familial et tout. Non, non, Interville aujourd'hui, c'est impossible que ça existe. C'est impossible que des gosses se mettent devant Interville. Je vous rappelle le principe d'Interville. C'est quand même de prendre des mecs d'un village, de les faire se faire affronter. Donc déjà, c'est le Moyen-Âge, hein, dans des épreuves de force et d'agilité, en fait. Dans des épreuves, je me rappelle, où d'ailleurs, c'était mixte. T'avais des gonzesses qui se faisaient taper par des mecs. Donc à un moment, on leur donnait là les espèces de... Comment ça s'appelle là, les PAO. C'est pas des PAO. C'est des... Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, les barres, là. Les barres avec des espèces de coussins pour pouvoir se taper sur la FIF. Hein. Ils les mettaient sur des podiums avec des piscines en dessous. Et t'avais des espèces de Jean-Luc paysagistes qui font du motoculteur à la campagne, qui affrontaient des Chantal qui fait de la conserve de pâté de foie sur des pylônes. Et vas-y que ça mettait des fatalities à des gonzesses en pleine poire. C'était putain de mon tas truc, la conseillère. contre Pézenas, tu vois. C'était des villages comme ça qui s'affrontaient. Et alors, il y avait le lâcher de vachette, hein. Il y avait des trucs de force pure, mais c'était des trucs d'équilibre, mais c'était des trucs géniaux. Et on regardait ça et ça te motivait. C'était épique, en fait. Même le moindre petit truc familial, il y avait un côté, se surpasser, l'amour du clocher. Parce que qu'on le veuille ou non, c'était quand même des trucs, mine de rien, même si c'était à la télé et tout, on était quand même encore dans l'esprit de clocher. Ça paraît fou de dire ça aujourd'hui quand on pense à la télé qu'on a et à quel point le wokisme est implanté et à quel point la télé parisienne a fini par tout lisser. Mais à l'époque, t'avais comme ça des vieux legs de la télé de l'époque de Léon Zitrone, que moi j'ai pas connu, hein, mais dont m'ont parlé mes parents, qui était un truc. Enfin, vous allez regarder sur les images INA, c'est génial, quoi. C'était des concours de bras de fer avec des mecs en Marcel. C'était Kiki le vigneron contre Dédé le carrossier, mais c'était génial. Et ça, mine de rien, ça s'est prolongé jusqu'à assez tard. Dans les années 90, t'avais la trilogie du samedi, t'avais Interville. Enfin, c'était génial, quoi. On passait des vacances, c'était merveilleux. Et franchement, aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'arrive à voir des trucs qui m'émerveillent et tout ça. Alors, c'est beaucoup plus rare, je trouve. Hein. Donc, c'est vraiment pas parce qu'il y a évidemment il y a de la nostalgie. Ça, vraiment, je vous en ai parlé plein de fois. La nostalgie fait une distorsion dans votre cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne gardez que les bons souvenirs. Moi, je me rappelle, il y avait certains jours dans l'été, bon, tu t'ennuyais un petit peu. Voilà, t'étais devant Highlander. Il est né dans les hautes terres d'Écosse. Non, mais ça aussi, putain. Attendez, je fais une aparté. Mais rappelez-vous, la je suis désolé, hein, mais les séries étaient ultra qualitatives. Quand c'était l'été et que tu te tapais du... alors, il y en a peut-être à qui ça va parler. Pas ça, j'en ai reparlé récemment, c'était une série que j'adorais. Je fais juste une aparté, je reprendrai après sur les programmes télé. Est-ce que vous vous rappelez de FX, Effets Spéciaux ? Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont connu cette série. C'était un espèce de mec qui avait une boîte de d'effets spéciaux et qui aidait des policiers américains à résoudre des enquêtes grâce à la pyrotechnie et à l'utilisation d'effets spéciaux. Bon, déjà, l'idée est très années 90. Enfin, franchement, c'était vraiment très qualitatif. Il y avait un côté audace. C'était très années 90. Il y avait un côté vraiment beaucoup d'audace. Parce qu'on, par exemple, typiquement aujourd'hui, bon, Jurassic Park, voilà, ça fait partie de notre environnement. C'est un univers qui a été installé. Mais vous imaginez dans les années 80, 90, la liberté qu'il y avait dans la création. Aujourd'hui, on rebouffe des remakes, de remakes, de vieux trucs, mais c'est infernal. À l'époque, il y avait encore des idées nouvelles, des trucs audacieux, et même les films qui étaient faits pour les gonzesses, parce qu'à la base, Titanic avec Leonardo DiCaprio, c'était fait pour les filles, hein, c'était fait pour les filles. C'était une grande fresque romantique, putain, mais je l'ai revu, mais c'est génial. En fait, le film est génial, quoi. C'est des trucs qui sont quand même, je trouve, très qualitatifs. Même quand ça s'adresse pas aux garçons et tout, tu le regardes, tu te régales. Et vraiment, je sais pas, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a moins de stimulation. Tu vas au cinéma, les films passent et se ressemblent et tu les oublies. Aujourd'hui, plus personne n'a rien à foutre de Dune. D'ailleurs, ça, c'est Body Bro qui me disait ça récemment. Il me disait, quand Dune est sorti, t'as toute une génération là qui s'est sentie concernée, qui a dit, ouais, putain, c'est le film d'une génération. Ça y est, il y a une énorme hype, ça a installé un énorme univers. Que dalle. Aujourd'hui, Dune, tout le monde s'en branle, alors que le premier opus était génial. Le deuxième opus est une merde sans nom. Et je suis désolé, Timothée Chalamet n'a pas le charisme qu'avait Russell Crowe dans Gladiator ou qu'avait, comment il s'appelle, Ian Malcolm, c'est comme ça qu'il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Non, Ian Malcolm, c'est le personnage qu'il incarne. Bon, bref, que le personnage principal de Jurassic Park, par exemple. C'est des mecs, aujourd'hui, ils incarnent plus rien. Et donc, je vous disais, tu dans l'été, il y avait toujours un film à se mettre sous la dent. T'avais toujours, déjà à la télé, t'avais des séries, c'était donc typiquement FX Effets Spéciaux, c'était la trilogie du samedi, c'était quand même très sympathique. Buffy, je sais que les mecs qui aimaient bien les blondes, il y en a un paquet qui se sont pognés devant les épisodes quand papa et maman n'étaient pas là. Il y en a un paquet qui regardait Sarah Michel Gellar avec la main dans le slip. Bande de petits coquins, va. Et donc, si tu veux, t'avais ça. T'avais, donc, je vous disais, FXPXE. Et puis, t'avais Highlander, quoi. T'avais Highlander, c'est un mec, c'est le seul mec au monde qui a le droit d'avoir un catogan sans être un fils de pute. Bon, lui et Claudio, l'italien, là, qui fume des cigares et qui t'explique qu'il aime bien les gonzesses et qu'il en veut 12. C'est les deux seuls mecs qui ont le droit d'avoir des catogans, en fait. Tu vois. Et putain, tu tombais sur un épisode de Highlander, t'étais là, t'avais 9 ans, t'étais plein de sucre. Ce soir, il y a Interville. Tu viens de faire 4 heures sur la console, t'es parti. T'as fait 2 heures sur la console, t'es parti faire 2-3 heures de cabane. Il fait encore jour parce que c'est l'été. Tu rentres et là, il est immortel. Il est né il y a 400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Mais il n'est pas seul. Certains partagent son pouvoir. Les uns œuvrent pour le bien, les autres pour le mal. Il lui a fallu des siècles durant combattre les forces des ténèbres. On ne peut l'attaquer sur un sol sacré, son unique refuge. Mais celui qui lui trachera la tête s'appropriera toute sa puissance. À la fin, un seul d'entre eux survivra. Son nom, Duncan MacLeod. On l'appelle Highlander. Here we are, born to be the princes of the universe. Putain, mais me dites pas que ça, c'était pas les meilleurs étés de votre vie, quand putain. Il y a la daronne qui a fait griller des saucisses. Il y a ton daron qui s'est servi un verre de rosé sur la terrasse et t'es en train de te buter le cortex cérébral avec lourd Duncan MacLeod qui tranche des têtes en mettant la menthe des gonzesses après les avoir secouées sur sa péniche de Gigamac à Paris, bordel. Est-ce que ça, c'était pas du lourd quand même? Putain, les séries quand on était gosse, c'était ça. C'était gros Highlander qui fait des combats d'épée dans des parkings, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, après, aujourd'hui, il faut dire les choses. Les séries sont géniales. Mais les séries sont géniales parce que les séries américaines, elles coûtent cher. Et en général, elles passent sur HBO. Donc, c'est parce que tu as le câble que tu as ces séries-là. Quand tu regardes juste les séries françaises, je suis désolé, c'est de la merde. C'est de la merde. Sous le soleil, Plus belle la vie, tout ça. Où sont les bastons dans les parkings, quand? Où sont les épées? Où sont les Jarod, là, qui est poursuivi par le centre, déjà à l'époque, quand on avait 10 piges, hein? Tu regardais le caméléon, tu comprenais que les institutions ne te lâcheront pas, quand? C'était une putain d'allégorie des impôts. Et tu regardais ça, tu comprenais le truc. Et c'est pareil pour Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires, qu'est-ce que ça veut dire? La virginité contre les chibres. Buffy contre les vampires, qu'est-ce que c'est? C'est un vagin, Buffy, en fait. Et les vampires, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Les bites. Et en fait, Buffy, ben, t'as tous les vampires qui essaient d'éclater Buffy et ils n'y arrivent pas. Voilà, mais ça, c'est un truc qui te dit, eh ben, patience. Voilà, toute ta vie, ce sera une lutte. Si tu veux la blonde, ben, il va falloir te battre. Voilà. Et puis, il va falloir être David Borinaz, va pas falloir un vampire, hein, avec la fif éclatée. Voilà, ça t'apprenait la vie, en fait. Ça t'apprenait la vie. Puis après, tu regardais Highlander, le mec était élégant, il était posé. À un moment, il y a un mec qui le regardait mal. Il se filait rendez-vous dans une casse ou dans un parking ou je sais pas où. Et il s'explosait avec leurs épées, en fait. Mais ça, ça te régalait. Et puis avant ça, t'avais pris du Killer Instinct. Voilà, t'avais pris des trucs comme ça quand t'avais fait un toucher au rugby là, avec les copains à côté du lac de Toulouse, du lac de Plaisance du Touche. Est-ce que c'était pas des grosses vies, quand? Est-ce que c'était pas la régalade? Est-ce qu'on n'était pas des gosses méritants, quand même? Par rapport aux fils de pute qu'il y a aujourd'hui avec leur coiffure de brocoli de merde et leurs héros qui sont nuls, là. Putain, les mecs, ils sont fans de Yamin Lamal. Il est dégueulasse, Yamin Lamal. Il a une gueule pourrie. Il a une tête de racaille. Il est abominable, quand. Il est abominable. Franchement, le singe de Dora l'exploratrice a plus de charisme que ce fils de pute. Et c'est ça, leur héros à eux. Alors que nous, c'était gros Duncan MacLeod ou Shaft. Non, mais à un moment, il faut comprendre, si tu veux, que nous, c'était Wesley Snipes dans Demolition Man, en fait. Tiens. C'est-à-dire que nous, les noirs qui nous régalaient, ils avaient des lunettes de soleil, ils éclataient des vampires, en fait. Alors que les noirs qui régalent les gosses aujourd'hui, putain, c'est Yamin Lamal, quoi. Mais ça va pas. Ou Lamine Yamal, je sais plus. Yamin Lamal, non. Yamin Lamal, c'est ça. Putain, mais c'est un scandale, quoi. C'est un scandale. Donc imagine MacLeod et après il y a des taureaux qui rentrent dans des villageois à la téloche. Putain, mais on vivait. Mais je suis désolé, mais on vivait. Et c'était des étés merveilleux. Et puis après, t'allais sur Age of Empires et tu bâtissais une civilisation. T'avais fait trop de trucs dans la journée, en fait. T'avais joué au rugby, tu t'étais mis des rentrants avec les potes. T'avais éclaté Koyasha avec Ragnar le Viking sur... sur Mace, sur 64, hein, t'avais fait une cabane, tu rentrais chez toi encore avide de violence, tu te faisais un épisode de gros Duncan MacLeod, et juste entre Interville, juste entre les villageois qui éclatent des vaches, juste entre les villageois qui éclatent des vaches et Duncan MacLeod qui se bat dans des parkings, tu te calais un petit passage de construction de civilisation sur Age of Empires, en fait. Tu vois, moi je prenais, c'était Age of Empires 2, je prenais les croisés, putain, il y avait croisade tous les après-midi, en fait. Je me calais devant l'ordinateur, qu'est-ce qu'il y a cet après-midi? Eh ben il y a croisade, voilà, il y a croisade. Tu vois, là, je viens de m'enfiler 5 merguez, 3 tranches de l'homo, 3 tranches de l'homo, 2 tomates posées sur le barbecue et 2 poivrons grillés, tu vois. Et ben là, sur quoi on va enchaîner? Sur la grosse civilisation qui doit chasser les arabos andalous de Castille, en fait, putain. Et c'était, je crois que c'était dans la même édition où tu faisais la guerre de 100 ans. Mais bordel, est-ce que c'était pas des étés fameux, ça? Est-ce que c'était pas des étés fameux? Tu fais une cabane, tu rentres chez toi, tu te rends compte que t'as pas tué assez d'anglais, quoi. Donc tu te fais une petite campagne, là, autour du château de Chinon, et t'éclates le prince noir, et tes autres fils de pute d'anglais qui veulent imposer le beurre et le mauvais goût dans le royaume de France, en fait. Mais ça régalait, ça régalait. Et mine de rien, ça a fait de nous un peu moins des fils de pute. Je dis pas qu'on est une génération fabuleuse, hein. Je dis, on est un peu moins des fils de pute que la génération actuelle. Ils jouent à quoi, eux, quand? Ils jouent à Roblox! Ils jouent à Roblox! Ils jouent à empiler des carrés les uns sur les autres, ces enculés, putain. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Après, ils se connectent sur TikTok et ils écoutent des vidéos d'ASMR en te disant « Ah, c'est satisfaisant !» Tu sais, t'as des espèces de grimaces de 9 ans qui te regardent avec le cerveau complètement explosé parce qu'ils ont plus de dopamine, parce qu'ils sont butés la tronche sur TikTok, qui te disent « Ah, j'adore l'ASMR, c'est satisfaisant !» Et après, ils regardent des kilomètres et des kilomètres de vidéos où t'as des éponges qui sont coupées en deux, où t'as des râteaux qui passent dans le sable, mais putain, qu'est-ce que j'ai envie de les crever? Qu'est-ce que j'ai envie de les crever? Mais c'est infernal! C'est infernal! C'est infernal, putain! Nous, on te passait des étés où il y avait de la geekerie, où il y avait de la technologie, mais c'est juste ce qu'il fallait! Et on n'avait pas oublié le goût du sang. On n'avait pas oublié de prendre des gamelles dans la forêt, bordel. Moi, je me rappelle, on se chauffait, on faisait des cabanes. À un moment, quand t'as un mec qui trouvait un bâton un peu courbé, on allait mettre un coup de clou sur une planche, on te faisait une arbalète avec une vieille chambre à air de vélo. Et on s'envoyait des carreaux dans la fif, et t'as des mecs qui les prenaient à 2 cm de l'œil. Quand ils s'ouvraient le front, ils rentraient chez eux, ils avaient la fif en 3D. Voilà, et leur daronne, elle leur faisait un bisou dessus, elle mettait un petit peu de bétadine, et c'est reparti, bordel. Putain. On galopait, on était bio quand. On n'était pas des animaux de hangar. Il y avait un petit peu de hangar avec l'ordinateur, mais il y avait aussi beaucoup de picorage de verre dehors, quoi. Putain, on était de la poule élevée au sol, quand. Aujourd'hui, c'est que de la batterie, c'est infernal. Et puis, ils sont dégueulasses parce qu'ils vivent tout. Les nouveaux gosses, là, je les regarde, ils passent des étés de merde. Ben parce qu'en fait, même jouer au foot, ils le font plus trop, ils ont peur de se faire mal au tibia et tout. C'est devenu des salopes, en fait. Déjà, plus personne ne joue au rugby à Toulouse, parce qu'en fait, il y a plus grand monde qui vient de Toulouse, il y a plus personne que ça intéresse d'être toulousain, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des gens qui viennent vivre à Toulouse, ils arrivent d'endroits comme Paris ou l'Algérie, et en fait, le rugby, ils en ont rien à branler. Voilà. Ils s'intéressent pas à ça, ils se demandent pas comment devenir toulousain. Donc, le rugby, il y en a de moins en moins. J'ai abordé le truc, mais parce que j'en reviens toujours pas, je l'ai dit 150 000 fois. Mais il y a des mecs qui n'ont plus l'accent à Toulouse. T'sais, de plus en plus, t'as des types, ils te parlent avec un accent pointu du Nord, je comprends pas. J'ai rien contre les accents du Nord. Mes accents du Nord dans le Nord, ça déboîte. Tu vois, quand j'en vais en Alsace, j'ai envie d'entendre un Alsacien, en fait. Y a rien qui régale plus que quand tu vas à l'Alsace, un mec qui dit, ouais, ah ouais, là, c'est un champ, là, il a plu. Tu vois? T'entends ça, ça te régale. T'as envie d'aller enculer une choucroute, et de te rappeler de la ligne Maginot, tu vois. Là, quand t'es à Toulouse et que t'entends, ouais, ça te dirait pas que, tu fais « Attends, fils de pute, mais y a marqué quoi là sur ton passeport ?» Parce que je viens de voir le lieu de naissance, hein, y a écrit « Gros Toulouse hein. ». Qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis désolé, je vous casse les couilles avec l'accent à chaque fois, mais parce que ça, c'est un truc que je m'y fais pas. Je ne m'y fais pas. J'ai grandi la majeure partie de ma vie à Toulouse. Je l'ai quitté en 2006, Toulouse. Après, j'y suis revenu. Donc, je suis né en 86, j'ai fait 20 ans sur Toulouse. Donc, pendant 20 ans, j'ai entendu des gonzes te parler avec l'accent toulousain. Là, tu rentres quand tu rentres, les mecs, je sais pas ce qu'ils font là. Excuse-moi, t'es campeur, qu'est-ce que t'es? T'es saisonnier, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu travailles à la saison, là? Tu travailles dans un restaurant, tu fais la pyrotechnie autour du lac de la Ramée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as cet accent-là? Je comprends pas. T'es locataire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fous ici, en fait? Ah, t'habites ici à l'année, d'accord. Mais alors, explique-moi un truc. Si t'habites ici à l'année, pourquoi t'as cet accent de pas d'ici, là? En fait, frérot, t'as l'accent du Vexin. Et là, on n'est pas dans le Vexin, on est à Toulouse.
Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est... En fait, quand tu parles, il y a l'Oise, là, tu vois. Il y a l'Oise. Il y a la ligne de métro, la ligne de train, Gare de l'Est, Meaux, tu vois. Mais t'es pas à Meaux, là. T'es à Toulouse. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu parles comme à la télé? Vous voyez? Et ça, c'est le truc qui me stresse. Hein. Et je crois que ça vient du fait que les gonzes, ils sont vraiment... déjà, plus personne ne vit dehors, ne fait des trucs dehors. C'est-à-dire que maintenant, le dehors, ça appartient au cassos. Avant, les gens normaux étaient dehors, en fait, parce que tu risquais rien à être dehors. Il y avait un côté... je sais pas, le pays venait à toi. T'avais pas besoin d'aller au pays. Il fallait venir un peu au pays, mais le pays venait à toi. Donc, les gosses s'inscrivaient naturellement au rugby. T'avais naturellement l'accent... Je sais pas, moi je me rappelle quand j'étais gosse d'avoir vu des Maghrébins qui avaient l'accent de Toulouse. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, c'est désolant. Là je suis retourné, je vais souvent, quand je rentre en France, je vais souvent me balader autour de l'endroit où j'ai grandi, autour du lac de Plaisance du Touche, putain. Je croise des... je croise des gens déjà. Là tu prends en considération que le monde est vaste parce qu'il y a vraiment de tout. Là, maintenant en France, il y a vraiment de tout. Mais y compris des gens qui viennent pas d'anciennes colonies, en fait, tu comprends pas. Et ensuite, il y a plus l'accent toulousain. Moi, à l'époque, je vous dis, quand je me baladais à Plaisance du Touche ou à Toulouse, tu croisais des rebeux, d'accord, des arabes avec des fifs d'arabes, ils transpiraient la couscoussière, hein, d'accord. Et les mecs, ah, putain, quand, voilà, il y avait ça. Et ça détendait quand même. Ça détendait. Alors, il y avait, hein. Il y avait déjà l'accent de cité, tout ça et tout, mais au moins, il y avait un petit peu d'accent toulousain dessus. C'est-à-dire qu'il y avait le djihad, mais avec du cassoulet dedans. Là, c'est vraiment Skyrock, en fait, tu vois. C'est Fun Radio, tu vois. C'est des mecs de Fun Radio, en fait. Tu croises des mecs de Fun Radio. Et ça, c'est désolant. Ça, c'est très désolant. Et c'est pareil pour les petits blancs. Hein. C'est pareil pour les petits blancs. Bon, les noirs à Toulouse, ils parlent anglais, donc comme ça, c'est réglé. Enfin, c'est très particulier. C'est devenu très, très particulier. Tu sais plus où t'es. T'arrives, tu dis, ah, d'accord, bon, mais ça a eu été toulousain. Puis les mecs, ils comprennent pas, ils connaissent pas l'histoire de Toulouse et tout. Moi, je suis très étonné de ça. Il y a des mecs qui sont à Toulouse, je leur dis, ouais, putain, capitale des Visigoths, la Brique Rouge, le siège de Toulouse, les comtes de Toulouse, Raymond VI, la croisade d'Albigeois. Zéro. Les mecs, ils savent pas pourquoi. C'est le jour le plus long. Ils ont été parachutés, les gonzes. C'est la 101e aéroportée. Tu vois, t'es en train de chercher les cuissons américains de la 101e aéroportée parce que le mec, apparemment, il est tombé du ciel. Tu vois. T'es là, tu le croises, il vit à Toulouse depuis je sais pas combien de temps. Il connaît rien, le gonze, il connaît rien. Ouais, je suis allé à Saint-Jérôme. C'est où Saint-Jérôme? Et fils de pute, tu vis dans une ville dont tu connais même pas une des églises principales. Enfin, je sais pas. C'est très, très bizarre. C'est très, très bizarre. Là, maintenant, la race toulousaine, c'est des mecs en Carhartt. C'est des mecs qui vont à la couleur de la culotte, qui était un énorme bar de rugbyman qui allait pas comme ça, en fait, parce qu'il y avait des espèces de brontosaures du rugby. Et en fait, quand ils étaient sous, il y avait le moment où ils te posaient sur la main sur l'épaule, ils te faisaient « Toi, je t'aime bien, toi ». Alors, quand il y avait une phrase comme ça, non, là, j'ai fait l'accent basque. Oh, « Toi, je t'aime bien, toi ». Alors déjà, quand il y a un rugbyman qui pose son énorme main sur ton épaule et qui te dit « Toi, je t'aime bien », ça veut dire qu'à un moment, dans les 5 prochaines minutes, tu vas prendre un coup de tête. Hein. Il va te taper, il va te torturer, il va te faire un truc horrible. Mais oui, mais c'était un peu les barbares. Moi, c'est ça qui me régalait à Toulouse. Il y avait le côté barbare. Les Arabes n'étaient pas complètement détendus à Toulouse. Il n'y avait pas encore la suprématie qu'ils ont dans d'autres villes parce qu'ils tombaient sur des os de temps en temps. Ils tombaient sur des mecs qui avaient le cigare complètement fondu, en fait. Ils tombaient sur des types dans les bars chez Tonton, tout ça et tout. C'était des animaux. C'était des mecs qui jouaient en Fédéral 2 dans des clubs innommables, tu vois. Et qui étaient à 5 grammes, qui se laissaient pousser la moustache et qui avaient des surnoms style Fifi, tu vois. Ouais, Fifi, viens voir, quoi. Putain, celui-là, je te le présentais, je l'aime bien. Moi, j'ai assisté à des scènes. Ça va être ce qu'il faut comprendre, c'est que le Toulouse des années 90, c'était un peu chez les barbares au début de Gladiator. Tu sais, quand il dit, putain, les émissaires sont pas revenus et que t'as une espèce de seconde ligne, avec une barbe et qui sort avec une démarche de, biboule toulousain quand il sort de la forêt, il fait, oh, t'as une! Et il jette les têtes des émissaires romains. Mais c'est un peu ça avec les rugbyans toulousains. Il y avait ce côté, qui vont-ils brutaliser? Dans quel animal ils vont mettre quelque chose? Parce que, il faut le dire aussi, quand. En fait, le pays visigoth, c'est-à-dire le sud-ouest, c'est les animaux. Voilà, déjà, il y a un rapport aux animaux, on est dans le paganisme le plus pur, quand. Et donc, c'est l'anus de l'animal. Voilà, l'anus de l'animal, ça fait rire les mecs du sud-ouest, ça. Le trou du cul de l'animal, ce qui en rentre et ce qui en sort, mettre des animaux dans des trucs où ils sont pas censés être. Là récemment, j'ai un ami du Cantal qui m'a expliqué qu'à Montauban, ils ont fait une fête. ils ont offert à un mec pour son comment ça s'appelle, pour son enterrement de vie de garçon, ils lui ont offert un lama. Ils lui ont offert un lama, ils ont rentré des trucs dans le cul du lama. Enfin voilà, bon, c'est de la torture, hein. C'est de la torture animalière, je suis contre. Mais c'est pour vous témoigner de ce que ça a eu été que la Mongolie du Sud-Ouest, quoi. C'était que des trucs comme ça, c'était faire rentrer. La base, c'est faire rentrer des animaux en boîte de nuit. Ça, c'est la base du rugby. Après, il y a les trucs pas rigolos du rugbyman, parce que vous savez que le rugbyman, c'est certes le côté très terroir, mais il y a l'autre côté. Il y a le mauvais côté du rugbyman, qui est un petit peu la racaille de la campagne, hein. Faut le savoir, ça. Hein. Parce qu'ils sont en groupe, ils sont à 4 grammes, donc ils bizutent, en fait. Ils bizutent. Et donc, ils attrapaient des mecs. Des fois, moi, je voyais des touristes, je me disais, mais les types, oh là là, ils ont vu Amélie Poulain, tu sais. Ils sont allés à Paris, ils ont vu une brochure qui leur parlait de la cathédrale Saint-Étienne ou Saint-Sernin à Toulouse, et ils sont descendus. Quelle erreur, quoi. Et les mecs sont restés dans les rues après 9h. Et non seulement ils sont restés dans les rues, mais ils sont allés chez Tonton, quoi. Ils sont allés à la couleur de la culotte, quoi, putain. Et là, j'ai assisté à des scènes dans les années 90, quand j'étais gosse, moi. Pour les finales de rugby. Enculé, j'ai assisté à des trucs. J'ai assisté à des piliers de 2m50 et de 180 kilos qui forçaient des touristes à boire et tout. On est à moitié dans la torture, à moitié dans la bienveillance, à moitié dans la racaillerie. C'est horrible. En fait, c'est l'humour malaisant et cringe, comme diraient les jeunes aujourd'hui, je suis un diplodocus, je fais ce que je veux avec ton corps. C'était infernal. Mais ça fait partie du royaume de Toulouse, tu vois. Ça fait partie de l'Occitanie, parce que c'est la même chose à Perpignan. C'est un peu un leg du gros paganisme qui est resté quand même. Voilà, les animaux, les sangliers, faire caca, gna gna gna, le caca du sanglier, le trou du cul du sanglier, le sanglier il est mort, je mets une branche dans son cul. Oh regarde, ça fait du terreau, quand voilà. Donc ça, si vous voulez, t'en bouffais tout l'été. Tu bouffais tout l'été des trucs comme ça, et c'était vivant en fait. Putain, il y avait de la foison, il y avait de la profusion. Voilà, tu jouais à Quake, il y avait des mamamama monster kill. Et puis après, quand tu voyais des rugbymen taper sur des mecs, et puis après, quand c'était la beuverie, et puis après, c'était la merguez, et puis après, c'était Duncan McLeod, mais ça n'arrêtait pas, quoi. Ça n'arrêtait pas. Les gosses aujourd'hui, ils passent des étés de merde, en fait. Ils sont sur TikTok, ils se font des coiffures, ils ont leurs petits shorts sur leur corps, mais même aussi, je trouve que les gosses sont de plus en plus secs. Je sais pas ce qui se passe, mais les gosses sont de plus en plus secs. Maintenant, je vois. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis en Espagne et que physiquement, ils sont moins costauds que les Français, mais putain, il y a de la brandy au mètre carré, quoi. C'est vraiment, je sais pas, à l'époque, déjà, quand tu présentais pas de la, si t'étais mince, fallait que t'aies l'air déter, quoi. Et les vieux, ils te regardaient et ils te donnaient une médaille, en fait. Tu sais, ils te voyaient faire, et en fonction de ton attitude, ils te donnaient une médaille, tu vois. Donc, si t'étais grand et costaud, là, ils t'attrapaient, ils te touchaient une articulation qui était souvent l'épaule ou le coude. Alors, ça aussi, enculé, tâter le coude. Les vieux qui te tâtent le coude en Occitanie, quoi. Tu sais, tout d'un coup, tu sens une main très ferme te tâter. Hé! Putain, que t'es costaud, gros. Et tu joues au Pays Basque. Hé,
t'es costaud, toi. Tu joues. Tu viens de Toulouse. Tu es un coche-pay. Tu es gaillard.
Mais ça régalait. Et quand t'étais maigre, fallait que t'aies l'œil vif. Et les vieux te le faisaient remarquer.
Oh, tu es vif, toi, hein. T'as de la vivacité, toi. Tu as le feu, tu as le diable au corps.
Mais ça régalait. Ça régalait. Il y avait une incitation à être déter, quand. Que ce soit par Interville, par les séries franco-belges, là, comme Duncan MacLeod, ou les jeux auxquels on jouait sur console, enculé. Maintenant, quand même, je sais pas. La violence a disparu pour donner lieu à une violence, pas une violence salvatrice. À l'époque, c'était avant que Rome arrive. C'était le village gaulois, si tu veux. À l'époque, c'était voler une poule, la mener en soirée. Bon, évidemment, au bout d'un moment, ils se la jetaient les uns sur les autres, donc elle mourait. Putain, c'est horrible. C'était amener des cadavres de poules dans les bars, se taper dessus avec. Voilà, ça, c'était des trucs de rudiment, tu vois. Tu te tapais avec une poule morte. Ou alors acheter un poulet et se faire des passes avec. Voilà. Les mecs, ils achetaient une dinde, ils amenaient la dinde en soirée, ils lui mettaient des trucs dans le cul. Voilà, tu vois, ça, ou alors amener des porcelets, moi, c'est le truc que j'ai vu, ça. Amener un petit porcelet congelé, là, de Carrefour, tu vois. Putain, c'est, on était quand même, les mecs étaient à deux doigts de sortir les, comment ça s'appelle, les trompes en cuivre qu'ils avaient, les Gaulois, là. Parce qu'à une époque, faut imaginer que les Romains, ils se sont dit, putain, on va essayer de civiliser la Gaule. Et il y avait des moments où ils arrivaient dans des clairières, et tout d'un coup, ils entendaient des, ils entendaient des trucs comme ça, c'était les gros Gaulois qui étaient en train de souffler dans les, dans des espèces d'olifants de métal. Ça va porter un nom très, je suis pas du tout un spécialiste d'antiquité. Les espèces de cornes celtes, là, en bronze. Ça faisait un bruit de malade. T'avais l'impression que t'étais dans un concert pagan, quand. Mais c'est resté, ça, quand même. Il y a le côté se peindre le corps, se foutre à poil. Il y a ça, ça qu'en fait, le rugbyman, en fin de soirée, il finissait à poil, quand même. Tu voyais son sgeg. Tu voyais son sgeg, il était à 8 grammes. Il se baignait, il faisait caca devant les filles. Voilà, il y avait un côté la tribu gauloise, quand même, tu vois. On n'est pas là à se foutre des couronnes de laurier sur la tête et à se romaniser, quoi. Il y avait encore le côté, on va chanter autour du feu et faire des incantations païennes. Et ça, ça régale. Et en fait, ce côté tribu visigothique est en train de disparaître. D'ailleurs, c'était le bon compromis, parce que le Visigoth, c'est un barbare récemment christianisé. Donc, il y a encore le côté se vêtir avec une peau d'ours, mais s'agenouiller devant le Christ. Et c'est vrai que ça, ça a un peu disparu. Aujourd'hui, Toulouse est la même putain de ville que toutes les autres villes de France, quoi. Aujourd'hui, quand tu veux retrouver de l'authenticité, faut aller vraiment dans les petits villages de campagne, ou monter dans les Pyrénées. Là, t'as des fêtes super sympas, t'as des trucs géniaux, et d'ailleurs des trucs qui sont vraiment emprunts, non pas de paganisme religieux, mais de paganisme, de legs de paganisme. Moi, je me rappelle, en été, il y avait des fêtes, là, alors côté navarrais en Espagne, ou côté basque, côté français, où tu avais, par exemple, la descente de la montagne, avec des mecs qui étaient habillés en bête. Donc ça, c'est vraiment des legs de paganisme fini. Mais si vous voulez, c'était des vieilles survivances de très vieilles pratiques paysannes, et ça régalait. Tu sentais que t'avais à faire un truc vraiment old school et tout, et ça, c'était génial. Moi, j'ai assisté à des fêtes de village dans les Pyrénées, c'était ça, quoi. C'était des mecs qui se déguisaient en ours. Il fallait sauter au-dessus du feu et tout. Là, on est complètement dans la préhistoire, quoi. Donc, quand par-dessus ça, il y avait finale du Stade Toulousain la veille, fête de la Saint-Jean. Mais, pour moi, le décor et les habitudes et les mœurs étaient beaucoup plus vivaces, beaucoup plus flamboyantes, beaucoup plus hautes en couleur. Aujourd'hui, je trouve que tout est vraiment très surfait. Il y a plus de spontanéité. Et puis, de toute façon, on ne peut plus faire des fêtes d'ampleur, puisque là, par exemple, récemment, ils ont essayé dans la Sarthe, là, ils ont mis un espèce de château gonflable pour que les gens viennent faire un truc un peu sympa. Évidemment, les racailles sont arrivées. Évidemment, les racailles ont tout gâché. Voilà. Donc, il y a ce truc qui pèse maintenant sur toute initiative populaire. C'est que tu vas ramasser les éternels destructeurs, les éternels casseurs d'ambiance. Et en fait, les gens ont des demi-vies. Il y a des demi-vies parce que les férias, maintenant, tu peux te faire voler, tu peux te faire agresser. Mais dans les années 60, un pickpocket qui se faisait attraper dans les rues de Bayonne, quand c'était le début de la police scientifique et que t'avais pas encore d'ADN, mais t'as des mecs qui se faisaient exploser la tête, en fait. Tu violais une gonzesse ou t'étais un pickpocket, mais tu te faisais éclater, on te retrouvait jamais, tu finissais le corps dans la nive, en fait. Il y avait des vrais trucs comme ça. Aujourd'hui, tout est tellement... En fait, c'est très bizarre parce qu'on vit une époque où tout est très nomenclaturé, si t'es solvable. Et à la fois, il y a une impunité qui est inédite, en fait. Qui est inédite. Il faut comprendre que tu es à la fois très surveillé, et à la fois, il y a une impunité stratosphérique pour des raisons politiques et pour des raisons de déclin civilisationnel. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le père de famille va être jugé beaucoup plus sévèrement, ou le mec avec un profil un peu patriote va être jugé beaucoup plus sévèrement que la racaille ethnique qui va tout gâcher, qui ont tous les droits. Voilà, moi je me rappelle dans les années 90, tu allais voir un blockbuster au cinéma, la séance n'était pas gâchée par les téléphones, n'était pas gâchée par Abdel qui allume son téléphone, il met de la lumière. Bon, il y en a encore qui vont m'écrire sur Instagram pour me dire, mais non, pourquoi Abdel? Oui, d'accord. Bon, écoute, moi je suis allé au cinéma toute ma vie quand j'étais gosse. Il y avait pas ces trucs là. Voilà, ça a commencé quand il y a eu certains profils. Je suis désolé de le dire. Et ça te sort du film. Et ça te rappelle la pesanteur de l'époque, il n'y a plus aucune légèreté. Ce qui faisait in fine la magie des années 90, c'est qu'on se disait, putain, la vie est d'une douceur incroyable, putain, je... Et pas seulement parce qu'on était des enfants. Même en tant qu'adulte, moi, je me rappelle que mes parents se régalaient. On regardait des programmes familiaux, Interville, on le regardait ensemble. C'était un truc de la classe moyenne, de prolo. Voilà, tu regardais Interville avec les parents. On avait des plaisirs simples, quoi. Ça coûtait pas. Même quand tu partais pas en vacances, ça coûtait rien. Tu faisais un barbecue avec les voisins. Les gens se voyaient beaucoup avec les voisins. Les vélos. Moi, l'antivol, dans ma jeunesse, je n'ai jamais eu à mettre un antivol à Plaisance. On allait à la piscine. On laissait les vélos dehors. Quand on sortait, les vélos étaient là, quoi. Et c'est vrai que fin des années 90, ça a commencé à... Il a commencé à avoir des vélos qui manquaient. Il a commencé à avoir des trucs. Voilà. Bon, à Toulouse, n'en parlons pas. Hein. À Toulouse, dès les années 80, fin des années 80, à tous les années 90, c'était fini. Donc, qui est quoi ? Voilà, qui est quoi ? La réponse, on la connaît tous. Voilà, il y a un mème maintenant qui dit « tout le monde sait ». Ben, c'est vrai, tout le monde sait. Voilà, tout le monde sait ce qui nous empêche maintenant de faire la fête et de se sentir bien et d'avoir confiance en l'avenir. Parce que pourquoi est-ce que les plaisirs simples étaient aussi puissants quand on était gosse ? Parce qu'en fait, on se disait, oui, c'est des plaisirs simples, c'est vrai. Alors déjà, on n'avait pas toute cette manifestation sur les réseaux de richesses, de gens qui se filment avec des yachts à Dubaï et tout ça. C'était un monde qui existait. Tu savais que ça existait, c'était dans les magazines People et tout, mais c'était pas un truc qu'on te mettait en permanence sous le nez. Il y avait une vraie quiétude, il y avait un vrai plaisir de la classe moyenne. Si t'étais un enfant de la classe moyenne, tu regardais le défilé du 14 juillet avec tes parents, tu regardais les événements sportifs avec tes parents, le daron, il regardait le Tour de France. Moi, mon père, il se posait l'été, c'était les après-midi de mon père, c'était il nous faisait à bouffer, tout ça, il faisait les grillades, il s'occupait des grillades. Après, il bouquinait un peu, et puis il se posait. Il avait le midi olympique aux chiottes. Il se mettait devant le Tour de France. Et tu regardais des paysages, et c'était des plaisirs simples, quoi. T'avais Gérard Holtz qui te commandait. Et puis c'était une France heureuse. Et honnêtement, vous savez, il y a un juste milieu. Là, aujourd'hui, on vous dit, oui, comment ça se fait que ça fait polémique, que l'équipe de France, il n'y a que des joueurs noirs, ce sont des Français. Moi, je suis désolé, il y a un compromis entre une équipe. Effectivement, la France, vu l'histoire qu'elle a et vu les vagues d'immigrés qu'elle a reçues, évidemment qu'aujourd'hui, une équipe 100% blanche, ça ferait bizarre par rapport au pays qu'on a. Mais ça fait autant bizarre une équipe 100% noire. Moi, je me rappelle que France 98, c'était génial parce que c'était vraiment la juste proportion. Vous aviez un Maghrébin qui était Zidane, sauf que c'était un Maghrébin qui avait l'accent de Marseille. Il n'avait pas l'accent de la cité, il avait l'accent de Marseille. C'était un Français, c'était un Kabyle d'origine, mais c'était un Français et un Marseillais de cœur. Voilà, t'écoutes parler Zidane, tu fermes les yeux, c'est un Français du Sud-Est qui te parle avec son accent du Sud-Est, quoi. Zidane, t'as jamais entendu, waouh là, je sais pas quoi, il s'exprimait normalement. Et c'était des gens qui étaient adulés par les Français. C'est pour ça qu'en fait, cette histoire de racisme et compagnie, ce pseudo-racisme des Français, c'est faux. À l'époque, les Marcel de Sailly, les Zidane, les Trezeguet, la France entière les aimait. C'était une équipe qui était très équilibrée. T'avais Emmanuel Petit, t'avais Barthès le Toulousain, t'avais Lissarassou le Basque, t'avais, oui, Emmanuel Petit, je l'ai dit, tu avais, comment il s'appelle, Pires, le descendant de portugais, t'avais Aimé Jacquet, l'entraîneur. Enfin, il y avait un côté. Il y avait un côté, je trouve, proportionné qui était très très bien. Qui était très très bien. Et c'était. T'avais un Antillais, comment il s'appelle qui régale Thierry Henry, tu vois. Thierry Henry, personnalité extrêmement attachante. Et d'ailleurs, qui a prévenu les Américains que Saint-Denis, ce n'est pas Paris. Voilà, donc c'était vraiment un équilibre et il y avait vraiment une félicité parce qu'on se disait, bon, ça va marcher, ça va le faire. Oui, c'est la France Black Blamber, mais ça reste la France quand même. Ce n'est plus la France de 1910, effectivement. Bon, mais c'est le monde et la mondialisation qui veulent ça. Mais tu avais affaire à des franco-français. Marcel de Sailly, c'est pas... je suis désolé, un noir parisien actuel n'a rien à voir avec Marcel de Sailly, quoi. le mec, il va être kémite, il va te parler. Il y avait de l'électricité sur les pyramides. je sais pas, putain. De Sailly, il est normal. De Sailly, tu l'imagines dans une brasserie à manger de la blanquette de veau, tu vois. Il va pas commencer à te sortir le. Oui, les leucodermes, je sais pas quoi. Enfin, les noirs s'ennuient aujourd'hui. Les noirs s'ennuient. Ils vont à Footlocker, ils rentrent. Bon, ils s'ennuient un peu parce que. Parce qu'en fait, ben, tout va bien, finalement. On a beaucoup de confort, donc ça finit à se demander si Nefertiti, à quel pourcent de génétique elle est congolaise. Bon, je sais pas, tu vois. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Est-ce que vous pouvez vous détendre, en fait? Est-ce que ça peut re-être France 98? Est-ce que les Kabyles, ça peut être Zidane, en fait? Est-ce que les Arabes, comme on les appelle, alors qu'ils ne le sont pas, sont des Maghrébins, est-ce que ça peut être Zidane? Tout le monde l'aimait, Zidane. Tout le monde l'aimait. Il faisait l'unanimité. Tout le monde l'aimait. Je rappelle que Zidane s'est marié avec une Française, une Aveyronnaise. Bon, Zidane, je pense que les côtes de porc, ça doit y aller. Il est à Madrid. Il a appelé tous ses enfants avec des prénoms occidentaux. Je pense que Zidane est un exemple de réussite de ce qu'aurait pu être l'immigration maghrébine en France. Heureuse. Voilà. Il aurait fallu, je ne parle pas de marquer un but en finale de Coupe du Monde, hein. Je parle d'être un mec du cru. Voilà, être un mec du cru. Et d'ailleurs, je les ai connus. Il y en avait un. Hein. Moi, je vous dis, mon père, quand il m'a amené aux réunions du Parti communiste, t'avais des Kabyles qui étaient des à part leur fif qui trahissait une provenance extra-européenne, tu avais des gens qui étaient de mœurs et de valeurs complètement françaises. Et c'est des gens qui me manquent beaucoup. C'est des gens qui manquent beaucoup. C'était des gens, ils avaient vraiment le bon côté du maghrébin parce qu'il y en a. Et tu passais, nous on allait au. Il y avait un mec qui avait un camion. Il faisait des sandwichs à la merguez. Et vous voyez, c'était pas un kebab. Il faisait des sandwichs à la merguez. Le mec était maghrébin. Je sais pas s'il était kabyle, je pense que oui. Et quand on sortait de la piscine, on allait se faire un sandwich. C'était un mec qui était français. Il était français. Il n'y avait pas de certification à l'al, je sais pas quoi. Les sauces, c'était pas je sais pas quoi. C'était mayo, ketchup, moutarde, quoi. Non, le mec, il faisait son camion à merguez le dimanche, voilà. Alors, j'en ai parlé récemment avec Mbeko de la Libération africaine qui me disait, ouais, mais en fait, tu vois, ces gens, à l'époque, ils étaient aimés parce que... parce que en fait, ils rappelaient pas à la France son passé colonial. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux rappeler à la France son passé colonial, fais-le depuis le Cameroun ou le Congo. Voilà. Va lutter pour l'émergence de ton pays. Déteste la France à distance. Si t'as des choses à reprocher, c'est qu'en fait, si tu craches dans la soupe, on a le droit d'avoir des choses à reprocher à notre pays. Vous voyez, moi, j'ai plein de choses à reprocher, non pas à mon pays, mais au régime qui le gouverne, c'est-à-dire la République. Je suis parti. Et je continue à aimer la France et à la respecter, à l'encenser. Voilà. Donc à l'époque, les mecs, ils étaient en France, ils aimaient la France, ils kiffaient. Et puis voilà, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on y a cru. On s'est dit, bon, et puis après, t'as eu le 11 septembre, et là, on a compris que ça allait être une paire de manches. Mais voilà, j'ai connu ça. J'ai connu des étés où c'était le camion à merguez avec le Kabyle dedans, qui était francisé au dernier degré. C'était l'entrée de la piscine à 3 francs. Enfin, faut voir, hein. Faut voir ce que c'était. T'avais 20 francs, tu te passais une journée de malade. Et même si t'avais 0 francs, tu t'amusais quand même, quoi. T'allais faire une cabane. Moi, la piscine, j'y allais peut-être 2-3 fois par semaine en été. Et puis le reste du temps, t'allais jouer à la console chez les potes, t'allais faire une cabane. T'allais faire une sortie à vélo dans les champs, là, autour de Plaisance du Touche, là, quand on allait à la Mounette et compagnie. Mais on se régalait. On se régalait, là. On partait chemin du Nébout. Et puis on rejoignait les petits villages que t'avais. Autour là, comment ça s'appelle, des fois on prenait le vélo, on allait jusqu'à Seyss, quoi, depuis Plaisance du Touche. Bon, là je vous parle de villages que vous connaissez pas, mais c'était des petites trottes quand même à notre âge. Puis tu passais par le Touche, là on avait un petit canal là, le Touche, et puis tu allais de Purpan, Saint-Martin, tu passais par Tournefeuille, Plaisance du Touche, mais c'était le Marquisat, c'était un régal. C'était une aventure de ouf. Et ça, je pense que ça manque. Maintenant, les gamins ont beaucoup de mal à... ont des vies moins simples. C'est un peu dommage. Il faudrait qu'on revienne comme ça, à se foutre des marrons par la gueule, à fabriquer des arbalètes avec des chambres à air, à faire des cartes. à se rentrer dans la gueule au rugby, à regarder Interville, à refaire des programmes. Moi, je me rappelle, par exemple, le soir, t'avais ça, et puis on regardait Fort Boyard. Tu vois, Fort Boyard, c'était quand même la mise en avant du patrimoine de la Bretagne, puisque c'est une île qui était au large de la Bretagne. Ça te faisait rêver, t'avais trop envie d'aller en Bretagne.
Je déteste le pays dans lequel je vis. Je sors la nuit pour causer des dégâts. J'observe un mois de jeûne pendant lequel la criminalité baisse drastiquement. Qui suis-je?
Vous vous rappelez du père, le père Fouras, quand sur son phare, il te posait des questions à 1 million d'euros, à 1 million d'euros.
Ma peau est sombre comme la nuit. Je fréquente énormément le RERT. J'aime les viandes de type blanche tirées des gallinacées. J'ai tendance à avoir de nombreuses paires de baskets tout en n'étant pas propriétaire du bien immobilier dans lequel je vis à Garges-lès-Gonesse. Je suis... un noir. Oui, bravo, tu as trouvé, bravo. Je parle fort au téléphone quand je suis dans le RER. Je me plains des dégâts de la colonisation en estimant que c'est ça qui a rendu l'Afrique pauvre, tout en ne me rendant pas compte que chaque fois que je donne rendez-vous à d'autres gens comme moi, tout le monde arrive en retard. Qui suis-je?
Les Africains, oui, bravo.
Oh putain. J'ai une tendance à me rendre agressif pour rien à cause du manque d'humidité dans le milieu naturel très sablé d'où je proviens. J'ai un vêtement long qui peut se porter sans slip. Je viens d'un pays où la police doit frapper très fort les gens pour qu'il y ait un petit peu de quiétude. Mes parents communiquent entre eux avec un niveau sonore qui fait croire aux voisins qu'il y a une dispute conjugale chaque fois que mon père pose une question à ma mère. Qui suis-je?
Une grosse famille de maghrébins. Bravo, bravo.
Bon, bref. Putain, ça regardait Fort Boyard, c'était le régal. C'était le régal. Tous les Antillais votaient Front National dans les années 90.
Dès que t'avais un Antillais qui vivait en France, il votait le Front National. C'était le régal. C'était le régal. Putain. C'était le régal. Et franchement, ça me manque. Ça me manque. C'était... C'était une période magnifique, pleine de plaisirs simples. Et je crois d'ailleurs que c'est ça, la clé du bonheur, les amis, ce sera le mot de la fin de ce petit podcast, c'est que vraiment multiplier le plus possible les petits moments de bonheur. Allez faire du quad si vous avez un quad, allez faire du vélo si vous aimez le vélo, allez faire de la rando si vous aimez la rando, allez faire... une virée en bagnole pour aller voir le château de Carcassonne comme je le faisais moi quand j'avais pas de thunes. Je passais une journée magnifique. Je me tapais un petit café devant la cathédrale Saint-Nazaire. Les amis, faites ça en fait. Allez voir les gens que vous aimez. Regardez les films qui vous inspirent. Allez essayer un petit peu de générer cette beauté-là. Allez débroussailler le jardin. Passer un coup de karcher sur la terrasse. Prendre le temps de discuter avec nos vieux et de les laisser vous raconter les anecdotes de l'époque, parce que c'est vrai que les vieux, quand ils vous parlent, c'est un peu lent, mais en fait, si vous leur laissez le temps, ils vont vous livrer des trucs géniaux. Sortez un petit peu des villes, allez vous balader, allez visiter les grottes et tout ça, allez vous balader au Mas d'Asile et tout, ça coûte que dalle. Moi, quand j'avais pas de thunes avec mon ex-femme, On allait au Mas d'Asile, on allait visiter des trucs, on allait voir un château, on montait au château de comment ça s'appelle, Quivernet, Putain, je suis désolé. On allait à l'Astour, on allait faire des trucs comme ça, ça nous coûtait 6 euros l'entrée, c'était que dalle. Franchement, faites ça. Faites ça, vous allez vous régaler. Essayez de mettre un petit peu de beauté dans la vie. La beauté dans la vie, ça passe pas que par des beaux tableaux et tout. Moi, c'est ce que j'ai fait chez moi. Je me suis fait une super déco, vraiment à la gloire du médiéval. N'hésitez pas à faire des choses simples, des petites choses qui amènent de la beauté dans votre vie. Voilà, fumer un petit cigare, boire le petit verre de rosé, aller faire du sport et puis avoir le plaisir de refroidir son corps là à l'ombre du pommier si vous avez un petit jardin. Enfin, vraiment les amis, la vie est beaucoup trop courte pour la passer à regarder des news dégueulasses sur YouTube. Allez un petit peu cultiver votre bien-être, allez cultiver le bonheur des choses simples, allez renouer du contact en dehors d'Internet et régalez-vous. Voilà les amis, vraiment, c'est ça que je vous souhaite pour le plus beau des étés. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée avec nos habits neufs et nos cahiers. N'oubliez pas, petit carreau à 4, un stylo bleu, blanc, rouge, un crayon à papier, une règle, une ardoise. Ça vous rappellera des souvenirs. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très bientôt. Et si on veut faire revenir cette époque-là, eh bien, il faut qu'on le fasse tous individuellement, il faut qu'on y retravaille. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Les amis, et arrêtez de me demander pourquoi les podcasts ne sont pas sur Deezer. C'est pénible. Ton podcast a disparu de Deezer, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, ils ont censuré mon podcast. Va sur Spotify, bordel de merde. Au lieu de me poser la question, va sur Spotify. Vous avez été franchement des centaines à me signaler que je sais que Deezer, je suis le premier au courant, que Deezer a fait sauter mon podcast. Arrêtez de me demander si, ouvrez les guillemets, c'est normal, point d'interrogation, fermez les guillemets. Non, c'est pas normal. Je suis pas putain de Cyprien, je suis pas putain de Norman fait des vidéos. Je ne bénéficie pas du même internet qu'eux, vous voyez. Moi, j'ai censure sur censure sur censure. Donc, il faut se tenir un petit peu au courant. Voilà, faut faire ce petit effort de temps en temps d'aller vous tenir au courant sur mes stories et vous verrez que les podcasts sont disponibles sur Spotify. Voilà, essayez de ne pas être des consommateurs passifs qui viennent juste prélever le podcast lundi matin, essayer de suivre un petit peu ce que je fais et mon actualité. Vous verrez que j'indique où aller écouter les podcasts. Je fais des stories régulières à ce sujet. Merci encore à tous ceux qui participent au Patreon. Vous avez eu un podcast exclusif avec le Raptor. Là, je vais vous refaire du contenu très prochainement. Vous allez avoir non seulement un Papa Ciné Club, mais un Papa Gaming. Un Papa C Gaming, je vais vous présenter les jeux qui m'ont régalé et je ferai de longs laïus sur ces jeux pour vous expliquer à quel souvenir ils renvoient. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un pour Age of Empires 2 et tutti quanti. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous souhaite de passer un bon été. Il y aura une interruption des podcasts à partir d'août, sauf pour les abonnés Patreon. En général, en août, je ne produis plus podcast. Là, je les produirai sur le Patreon en exclusivité pour le Patreon, pour récompenser ceux qui me soutiennent à l'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, les amis.